Alors bienvenue, vous êtes très nombreux pour assister à cette table ronde sur histoire et imaginaire. Est-ce que ce sont des fans de Game of Thrones, de Jean-Philippe Jaworski ou de l'histoire de l'Alsace ou de Xavier Mauméjean, je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à tous pour donc cette table ronde qui nous invite à réfléchir sur les imaginaires de l'histoire. Donc la manière dont on projette telle ou telle image sur telle ou telle période, qu'est-ce qu'on imagine quand on pense à une période historique, et puis symétriquement sur les histoires imaginaires, comment les romans de fantasy revisitent et réinventent, se saisissent de ce matériau historique. Et donc la table ronde d'ailleurs réunit deux universitaires intéressés par ces questions d'appropriation du passé par ces usagers contemporains, Georges Bischoff et Stéphane Rollet, je vais les présenter un peu plus, et puis deux auteurs érudits, eux-mêmes enseignants ou passeurs de culture, Jean-Philippe Jaworski et Xavier Mauméjean. Donc Georges Bischoff est professeur émérite d'histoire à l'université de Strasbourg, et spécialiste de la fin du Moyen-Âge, du début des temps modernes, notamment dans les pays de l'ancienne Lotharingie, l'Alsace, et la culture matérielle de ce même espace, avec des problématiques qui prennent en compte la mémoire et l'imaginaire comme ressort de réactualisation, de réappropriation du passé ou d'instrumentalisation du passé et du patrimoine historique. Il est l'auteur d'ouvrages très érudit sur sa période de prédilection, et puis d'ouvrages de vulgarisation sur l'histoire de l'Alsace. Une histoire d'Alsace publiée en 2001, auquel a contribué le célèbre auteur de bande dessinée Jacques Martin, le père d'Alix, le Romain. Et puis l'Alsace imaginaire en 2003, et puis pour en finir avec l'histoire de l'Alsace. En 2015, pourquoi est-ce qu'il faut en finir ? Il nous le dira peut-être. Jean-Philippe Jaworski est agrégé de lettres modernes et enseigne dans un lycée de Nancy. Il est surtout, bien sûr, auteur de jeux de rôle, avec en particulier Tédéum pour un massacre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que c'est un jeu de rôle historique qui permet de jouer dans les guerres de religion, avec la nuit de la Saint-Barthélemy en perspective, et puis auteur de romans salués par les amateurs d'imaginaire et de beau style, avec deux grands ensembles édités au Mouton Électrique et puis chez Folio SF, l'ensemble des Récits du Vieux Royaume avec le recueil Yanois Vera et le roman Gagner la guerre, et puis l'ensemble Roi du Monde qui est ici une trilogie donc sur les Bituriges, hein, qui sont des tribus celtes, hein, dont deux volumes sont pour l'instant parus. Par ordre alphabétique, je passe à Xavier Mauméjean, donc qui est auteur d'une grande œuvre romanesque qui traverse les genres. Hein. Il y a du policier, il y a de la science-fiction, de la fantasy, de la littérature générale. Éditeur de collections pour la jeunesse, et puis grand connaisseur d'un certain nombre de figures de la mémoire populaire, hein, des grands malfaiteurs, hein, des grands détectives de la fin 19e, début 20e, Fantomas, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Auquel il a consacré des essais et des pièces radiophoniques. Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, il faut noter que ces ouvrages donc, relèvent souvent d'une forme de fantaisie historique. Il se saisit d'une période de l'histoire qu'il va réinventer, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale pour Rosée de Feu, ou côté japonais, la vie intellectuelle du XVIIIe siècle dans la Vénus anatomique, ou une histoire qu'il réécrit comme dans son Uchronie, la Reine des Lumières, où il imagine que Alexandre le Grand a dénoué le nœud gordien, et donc l'Empire alexandrin a duré jusqu'à nos jours, hein, et donc le monde contemporain est complètement différent. Et puis beaucoup de ces romans nous font découvrir des périodes méconnues de l'histoire, l'histoire américaine notamment dans Lilliputia ou dans American Gothic, et puis son dernier ouvrage paru donc, qui doit être là, Kafka à Paris, comble un trou historique hein, dans la biographie de Kafka, un moment qu'on ne connaît pas et donc dont il va se saisir. Enfin, Stéphane Rollet, c'est notre autre, mon autre collègue universitaire à cette table. Il est docteur en histoire de l'art moderne et maître de conférences en langue et littérature latine et néo-latine à l'université Paris 8. Ses recherches portent sur la réception de l'Antiquité et sur les rapports texte-image à la Renaissance. Mais, vous le constatez, il s'intéresse aussi à la culture populaire la plus contemporaine, et notamment aux séries télévisées, puisqu'il est l'auteur de « Le trône de fer, le pouvoir dans le sang », qui était la première monographie en français consacrée à la série télévisée Game of Thrones, dans l'ouvrage dans lequel donc, il repère un certain nombre de sources iconographiques, architecturales, historiques de la série. Et il co-dirige hein, la collection sériale au Presse universitaire François Rabelais, qui est une collection consacrée aux séries télévisées et à la sérialité plus largement. Bon, alors on va commencer par établir un peu vos liens de proximité, les universitaires, les historiens ici présents. Est-ce que vous aimez la fiction? Est-ce que vous aimez les littératures de l'imaginaire? Qu'est-ce que vous lisez? Quelles sont vos œuvres de référence, si vous en avez? Georges Bichon.
Alors, bonne
ou
question,
plutôt roman historique.
D'abord, je voudrais dire qu'un historien est un écrivain de fiction. Parce que le travail de l'historien, qui consiste à essayer de reconstituer des faits, à essayer d'interpréter des réalités, c'est un travail rhétorique qui se fait avec des sources tellement partielles que tout le ciment qui est utilisé pour faire tenir ensemble une démonstration est issu de l'imaginaire de l'historien lui-même. Alors l'imaginaire, c'est la folle du logis d'une certaine mesure, mais c'est, je crois, le ressort, c'est la vitamine même de la création ou de l'action. Et je crois qu'il faut prendre en compte le fait que quand un historien travaille, ben d'abord il travaille à partir de sa propre culture, de son propre savoir et de son propre imaginaire. Il travaille sur des thèmes qui renvoient à un imaginaire du passé. Hein, qu'est-ce que nos ancêtres, si ce sont nos ancêtres, avaient bien dans leur tête? La grosse question est de savoir si les hommes du Moyen-Âge, les hommes d'Antiquité, étaient les mêmes que nous. Lucien Febvre estime que eux, là-bas, dans le temps, ce n'est pas nous. Eux qui ne sont pas nous. Et je crois que c'est effectivement une des clés. Il faut se rendre compte du fait que lorsqu'on approche un passé lointain, on a affaire à des gens qui ont un imaginaire qui est extrêmement différent du leur. Enfin, on ajoutera que le lecteur, celui qui attend d'un historien, d'un romancier de faire un travail, d'écrire un texte de fiction, ben il a également son propre imaginaire, et tous ces imaginaires ne sont pas forcément connectés, sont parfois contradictoires.
Stéphane, Stéphane Rollet.
Ben, je crois qu'effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec mon collègue sur tout ce qu'il a dit, c'est le nécessaire lien avec la fiction dans ce que nous écrivons, alors même qu'il s'agit normalement de science, puisque nous nous servons du langage, nous servons de la rhétorique, et il y a forcément quelque chose qui, d'une certaine manière, nous échappe. Maintenant, pour mes liens personnels avec l'imaginaire, ben, actuellement, vous imaginez bien que je ne regarde pas que la série, mais enfin, je précise, effectivement, j'ai lu tous les livres de George Martin, et effectivement, je suis particulièrement intéressé par cette façon qu'il a de jouer avec l'histoire, non pas de transformer l'histoire, parce que ça, je ne pense pas que ce soit vraiment le premier de ses soucis. Mais en fait, on a l'impression d'avoir l'histoire en confetti, parce qu'à chaque fois qu'on reconnaît, qu'on croit reconnaître une source, eh bien, on s'aperçoit que soudain, ça se change en contrefait. Vous voyez, c'est what if en histoire. Et si ça s'était passé autrement? Vous avez quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, des enfants qui sont massacrés, par exemple. Et si après, ça s'était passé différemment du moment où on sait que, effectivement, cette histoire est arrivée? Là, je faisais simplement référence à un épisode de La Guerre des Deux Roses qu'on peut penser avoir été transposé par Martin. Plus personnellement, en fait, l'imaginaire je crois, comme beaucoup d'entre nous, c'est arrivé par la lecture quand nous étions enfants et par les grands classiques, que ce soit Dumas, Féval, etc. Et puis, pour ce qui est de la fantaisie, mais ça c'est personnel, un certain goût pour la fantaisie épique, mais pour, disons, des héros un peu cassés. Et dans mon cas, c'était Elric le Nécromancien, donc de Moorcock. Voilà. Dans un premier temps.
D'accord. Et les romanciers, maintenant, quel est votre rapport à l'histoire ? J'ai l'impression que... il est clair que l'un comme l'autre, vous êtes férus de documentation. Comment procédez-vous ? Quel degré d'authenticité est-ce que vous visez ? Quelle marge de manœuvre est-ce que vous vous laissez ? Qui veut commencer ?
Bon, je vais commencer. Moi, je lis beaucoup d'histoire. Alors, je lis de l'histoire absolument pas en scientifique. Hein. Je la lis en pillard. Hein. Stéphane Rollet parlait de la façon dont Martine exploite la guerre des deux roses. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, je vais aller chercher dans les sources historiques, d'une part, les éléments vraiment pittoresques, ceux qui donnent envie de raconter une histoire, ceux qui vont construire un décor, qui vont construire la vraisemblance d'une fiction, même dans un monde purement fictif. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, mais là je vais laisser Xavier en parler, parce que je suis intéressé plus sur le plan ludique que sur le plan romanesque par ça, il y a les angles morts de l'histoire. Les angles morts qui sont dus soit à une documentation lacunaire, hein, que vous évoquiez, soit à une documentation surabondante. Alors, pour ce qui est de Te Deum pour un massacre, c'est la nuit de la Saint-Barthélemy. On est très documenté sur la nuit de la Saint-Barthélemy, on a quantité de mémoires sur ce qui s'est passé au moment où les catholiques ont décidé d'aller massacrer les protestants. Mais en fait, comme tout le monde a essayé de se dédouaner en disant oh, « c'est pas moi qui y ai pensé, hein, c'est le duc d'Anjou, non c'est Guise, etc. », on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Du coup, au milieu de ces versions contradictoires, il y a un espace romanesque qui est assez fascinant.
Moi, ce qui m'intéresse en fait dans le travail sur l'histoire, c'est la distinction entre vrai, réel et fiction. C'est Aristote dans La Poétique au chapitre 9 qui distingue l'historien du poète au sens où l'historien va parler d'un fait particulier tandis que le poète va parler à tout le monde. Il va dire quelque chose qui va être compréhensible par tout le monde. Par exemple, l'historien dira « Dans ce village, il y avait une femme belle ». Le poète, lui, va dire « Dans ce village, il y avait une femme belle comme Aphrodite » et donc tout le monde comprend. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, ce qui est défini comme vrai, même si c'est que ponctuellement, ne représente qu'une part pauvre du réel. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est de créer des effets de réel par le biais de la fiction. Et ça, c'est le propre de l'imaginaire, techniquement, puisque l'imaginaire, c'est une opération de l'esprit qui combine, en fait, des images issues de la perception pour obtenir des nouvelles images qu'on appelle des fictions. Par exemple, un centaure, c'est image homme plus image cheval. Et ce qui est passionnant, c'est que les créations de l'imaginaire, une licorne par exemple, un centaure, ont des indices de réalité. Par exemple, si vous mettez des ailes à un centaure, ce n'est pas un centaure. Donc ce qui me fascine, moi, c'est le fait qu'on peut provoquer des effets de réel qui viennent combler les vides du vrai par le biais de la fiction. Et ce qui m'intéresse, c'est de construire un cadre connu par tous, qui est le cadre vrai, de manière à poser des paliers de reconnaissance au lecteur, mais de créer du quasi-réel, des effets de réel, par des combinatoires autres, des éléments qui sont tenus pour vrais, qui sont des fictions. Et donc c'est ce jeu entre vrai, réel, fiction qui m'intéresse, et en effet, l'histoire est un cadre idéal pour ça.
Et documentation, quelle est ta façon de te documenter ? Quel point c'est documenté ?
C'est maniaque, parce que il faut savoir, je pense que Jean-Philippe dirait la même chose, il faut savoir renoncer aussi à sa documentation. Il ne faut pas que ça fasse inventaire, il ne faut pas que ça fasse collection. Donc il faut savoir renoncer, mais pour renoncer à de la documentation, il faut en avoir accumulé. Par exemple... je rassemble, oui, par exemple, pour Kafka, tout ce qui est de l'ordre du fait est authentique. C'est la combinaison des faits qui est fausse. qui est imaginaire, mais tout est vrai, c'est-à-dire que ponctuellement, c'est vrai. C'est l'agencement de l'ensemble qui est une fiction, qui est une
c'est
histoire.
C'est un des procédés du roman historique.
Voilà.
Jean-Philippe Jaworski, un aspect intéressant dans votre œuvre, enfin pour ce qui concerne cette table ronde, c'est qu'il y a un retour ou un aller-retour entre deux tendances, une grande tradition de la fantasy, le monde secondaire dont l'espace-temps est complètement parallèle, d'une part, et puis la fiction historique, ne contenant pratiquement plus d'éléments surnaturels, sinon sous forme d'une espèce d'anthropologie de l'imaginaire, d'autre part. Comment... Bah, quelle différence faites-vous entre ces deux inspirations? Est-ce que vous faites une différence?
Oui, je fais une différence. Bon, là, je m'inscris vraiment en disciple de Tolkien. Tolkien qui crée un monde secondaire, qui définit d'ailleurs même la notion de monde secondaire.
On en parlera cet après-midi à 13h.
En partant, en fait, du mythe. Le mythe, c'est-à-dire le récit fictif, mais donné pour vrai et constitutif d'une identité collective. Par conséquent, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler autour des différentes variations autour du récit mythique ou mythologique. Soit dans une optique qui est purement fantasy, c'est-à-dire je suis la méthode de Tolkien, je crée un monde secondaire, mais je donne de la vraisemblance à ce monde secondaire en allant chercher toute une série de références historiques qui vont venir habiller l'univers fictif. Soit je vais à l'inverse, ce qui est moins connu chez Tolkien, c'est qu'avant de se lancer dans la création d'un monde secondaire, il a écrit un certain nombre, enfin il a composé un certain nombre de réécritures, hein, plus ou moins inachevées, de légendes ou de textes, soit arthuriens, soit germaniques. Et il s'est efforcé de reconstituer pour un public moderne une poétique ancienne. Et ça m'intéressait particulièrement parce que, alors c'est ce que je fais en particulier dans le cadre de Roi du Monde, hein, la trilogie celtique en construction, la trilogie dumasienne, hein, puisqu'elle va être publiée en 4 volumes. c'est ce qui m'intéresse, c'est de présenter un récit purement fictif comme quelque chose de vrai, en tout cas de potentiellement vrai, parce que potentiellement constitutif de notre identité. Je parle de nos ancêtres les Gaulois, même si j'aime pas trop le mot gaulois. Il y a deux angles différents, en fait. Dans un angle, quand j'écris de la fantaisie canonique, alors là, pour le coup, je me sers vraiment de l'histoire comme un pillard, ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand j'essaye d'écrire une fantaisie mythologique ou anthropologique, là, par contre, je travaille presque comme si j'écrivais un roman historique, mais pour restituer la mentalité, vous disiez tout à l'heure que les hommes anciens ne sont pas nous, hein, pour restituer une mentalité qui est complètement irrationnelle, pour laquelle la réalité, en fait, est remplie de surnaturel et de Dieu, là, j'ai recours, en quelque sorte, au truc de la fantaisie, au merveilleux de la fantaisie que j'intègre dans la construction du roman historique.
Tout à fait. Donc, vous mettez de l'histoire dans la fantaisie, de la vraisemblance, de la cohérence et de la fantaisie dans l'histoire, du surnaturel, dans l'anthropologie, de l'imaginaire. Les autres, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a un nécessaire équilibre à trouver entre ces deux inspirations?
Je pense. En tout cas, c'est une démarche qui me séduit beaucoup.
Micro.
je disais que la démarche qui est proposée ici me séduit beaucoup. Mais je pense que là aussi, nous fonctionnons souvent de manière très elliptique parce que, précisément, nos sources sont pauvres et qu'on est obligé d'utiliser des comparaisons d'une société à l'autre, d'un moment à l'autre. Il va de soi qu'on peut essayer de faire une histoire des hommes préhistoriques en partant de leur mentalité. Est-ce qu'on peut les reconstituer à travers un certain nombre d'indices, des lieux de culte, des modes d'innovation, des moyens, comment dirais-je, matériels. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important d'injecter, non pas du merveilleux, mais au moins des emprunts faits à d'autres civilisations, des éléments qui sont des éclairages. C'est finalement une méthode qu'utilise assez volontiers les ethnologues.
Stéphane, c'est Georges, Stéphane Rollet, est-ce que ça vous semble correspondre à la démarche de Georges Martin? Est-ce qu'il utilise ces éléments historiques qu'il pille pour apporter justement une cohérence, une vraisemblance à son monde parallèle, à son monde secondaire?
Alors,
c'est un outil de cohérence?
Oui, c'est un outil de cohérence, de toute évidence. Et c'est un outil de cohérence non seulement pour les romans, mais c'est aussi un outil de cohérence pour l'adaptation, d'une façon tout à fait autre, justement. Pour ces romans, il est vrai que c'est tellement retransformé qu'il est parfois difficile de retrouver les sources. Mais en même temps, cela lui permet, je crois, de définir un certain nombre de lignes, un certain nombre de zones dans le passé en particulier, pour ceux qui ont lu les livres, vous voyez qu'il y a un certain nombre de royaumes, et chaque royaume a son histoire. Pour que, à la fois, chaque royaume ait une histoire caractérisée, et qu'en même temps, l'ensemble fasse un tout, je crois que Martin a utilisé justement des éléments qui permettent de marquer chacun des royaumes. Je prendrai Dorne, il est clair qu'il y a dans Dorne, c'est encore plus visible, c'est clair, pour la série, mais on pourra en parler. Il y a dans Dorne une influence en fait de l'histoire arabo-andalouse, de l'histoire de l'Andalousie. Et ça ne se trouve que là. Et ça permet de caractériser cet endroit, ce royaume, et en même temps, parce que les éléments qui sont empruntés à la fin du Moyen-Âge, on reste dans une sphère médiévalisante. Si on passe à ce qui se passe dans la série, un des problèmes de la série télévisée, c'est de créer l'épaisseur du temps. Parce que nous avons une fiction qui se déroule devant nos yeux, dans un monde qui est imaginaire, donc totalement étranger, on n'a pas de référence. Et en même temps, ce monde, il se prétend ancien, il se prétend fondé sur des vieilles valeurs. Alors comment on fait ? Un des moyens que les concepteurs de la série, alors là, c'est assez difficile d'établir les responsabilités, franchement, mais un des moyens qu'ils ont trouvé, en tout cas, quand on regarde de près les choses, c'est justement d'utiliser des strates historiques différentes pour réussir à créer du temps. Je prends un exemple tout simple. Vous vous souvenez, je vais pas de spoiler, sauf faire attention. Vous vous souvenez, lorsque Renly Baratheon meurt, il est étendu sur un catafalque, et derrière, vous n'avez peut-être pas vu, mais derrière, dans sa tente, il y a une tapisserie. Cette tapisserie, vous dites, je la connais, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. Ce n'est pas la tapisserie de la reine Mathilde, c'est une tapisserie qui est un pastiche de celle de la reine Mathilde. Si vous regardez d'encore plus près, vous apercevez que c'est une histoire, une petite histoire Baratheon, si on peut dire. Il y a des Baratheon sur cette tapisserie. Mais qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet... Alors, encore faut-il le voir, vous me direz, je veux bien, mais ça permet en fait, dans l'image, de créer un passé par rapport à ce que nous voyons. Un passé lointain, un passé prestigieux. De la même façon, vous voyez, non, ce sera pas un spoiler non plus, Tyrion arrive à Paintos après son départ,
bref,
il arrive à Paintos et on le sort de sa caisse, et là, il boit du vin. Et vous regarderez le gobelet. Le gobelet, c'est un gobelet que tout le monde connaît quand on est antiquisant. C'est un gobelet en or qui, en fait, date de l'époque mycénienne, qui est conservé à Athènes. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ici, entre autres choses, parce qu'il y a aussi à côté une athénienne, c'est-à-dire c'est un petit meuble particulier qui est imité de ce qu'on trouvait à Pompéi, enfin une sorte de brûle-parfum, si vous voulez, aussi. Ça permet de créer un univers où on est chez le marchand quasiment le plus riche de Paintos. Enfin, pour la série, c'est ça. Il faut montrer du luxe. Il faut montrer du luxe ancien. Eh bien, ça permet de montrer du luxe ancien. Vous arrivez à Braavos, qu'est-ce que vous avez à Braavos ? Vous avez le titan. Le titan de Braavos, ça fait longtemps qu'il n'existe plus, enfin qu'il a été construit. Oui, mais le titan de Braavos, ça rappelle tout de suite, là aussi, pour quelqu'un qui connaît un peu l'Antiquité, ça rappelle le colosse de Rhodes. Et le colosse de Rhodes, ben oui, c'est l'Antiquité. Et l'Antiquité de Braavos, si vous voulez, elle est, sans même qu'on en ait totalement conscience, elle est représentée par notre Antiquité, là. Et elle donne à Braavos, notre antiquité, la possibilité d'une épaisseur temporelle, de l'épaisseur temporelle dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, il y a une utilisation de l'histoire, et par George Martin lui-même, mais je disais de façon différente, parce que dans les romans, on peut aller plus loin, on peut y aller plus subtilement, mais il faut surtout se garder d'une chose qui est absolument essentielle. c'est qu'il y a un pacte de lecture, si vous voulez, entre vous, enfin entre le romancier et vous. C'est que le monde qu'il nous décrit est totalement imaginaire. Donc il ne peut jamais y faire allusion comme à quelque chose de connu. Il vous montre des choses que vous connaissez et que vous avez vous-même à réarticuler dans son monde, mais il ne peut pas vous dire « oui, ça vient de quelque chose que vous connaissez ». Non, parce que sinon, il établit un lien qu'il ne veut pas établir, un lien entre cet univers qui est imaginaire, complètement séparé du nôtre, et le nôtre, soudain. Et ça casse tout. Et vous remarquerez que ça n'est jamais fait. Même dans le roman. Même dans le roman, je me souviens d'un moment où il est question de l'androgyne. Il n'est pas question de l'androgyne, plus exactement. Moi, je sais qu'il est question de l'androgyne. Mais on a les composés de l'androgyne, et c'est l'androgyne, mais il n'est jamais nommé. Et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui doit être, je pense, du point de vue du romancier, quelque chose de très délicat à maintenir sur des milliers de pages. Et c'est aussi quelque chose de très délicat à construire pour que ça garde la cohérence sur maintenant, on va arriver à 60 heures de film. Mais donc oui, l'histoire, c'est très important pour l'un comme pour l'autre.
Les romanciers, est-ce que ça, c'est effectivement un problème que vous rencontrez alors, quand on est dans un autre monde, de réussir à ne pas sortir du pacte, justement, à ne pas prendre appui sur le réel de manière trop explicite pour que vos lecteurs s'en rendent compte?
Ah bah oui, tout à fait. Moi, je me souviens que pour un roman qui s'appelle « Car je suis Légion », qui se passe à Babylone en moins 600 et quelques... J'avais tout préparé, j'avais lu Hérodote, enfin j'étais prêt, voilà. Même les recettes de cuisine, j'avais tout. Donc le héros traverse Babylone, les quartiers, tout c'était parfait. Voilà, j'ai tapé, j'avais tout. Il arrive chez lui, il y a son épouse, et là je me suis dit, mais est-ce qu'ils s'embrassaient les Babyloniens ? Et j'ai mis 3 jours à trouver la réponse. Donc oui, effectivement, on ne peut pas injecter des éléments qui viendraient justement briser ce fameux pacte et qui viendraient, qui dégageraient le lecteur du récit. Mais à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que les signes d'une époque sont forcément nourris de la signification de notre époque. Par exemple... Imaginons que dans un, si on veut bien imaginer, qu'on lirait dans un manuscrit du Moyen Âge cette phrase « Un homme et son fils vont à la pêche ». Ben nous, on penserait chemise de flanelle, Budweiser, barbecue, super moment ensemble, espèce de passage de flambeau du père au fils, enfin l'initiation masculine et tout. Et en fait, peut-être qu'il s'agissait tout simplement de deux malheureux crèvent la faim qui doivent reconduire à trouver de quoi pêcher 2 fois par jour au minimum sous peine de quitter ce monde. Donc les signes en soi sont ambigus. Et c'est peut-être justement ce qui permet de les détourner à certains moments. Soit on reprend, enfin on tâche, parce qu'effectivement on imagine, soit on tâche de retrouver la signification qu'ils avaient à l'origine, soit on profite de l'existence de ces signes pour leur donner une signification qui est la nôtre. Et c'est donc ce travail, peut-être, je ne sais pas Jean-Philippe, mais ce travail de création qui est de s'approprier des signes qui existent, qui nous facilite le travail. C'était très joliment dit concernant la série de George Martin. Oui, le fait que ces signes existent nous facilite le travail, mais on peut en même temps les détourner pour obtenir d'autres effets.
Oui, je rejoins Xavier sur les problèmes qui se posent en cours d'écriture pour respecter en fait certaines intentions. Alors, dans l'espoir que le pacte de lecture soit respecté avec le lecteur. Dans le cadre du cycle celtique que je suis en train d'écrire, la question se pose sans arrêt. Bon, j'avais la question au niveau du commerce. Comment est-ce qu'on commerce dans un monde sans monnaie ? Comment est-ce qu'on se situe dans un monde où il n'y a pas 4 points cardinaux, mais 3 points cardinaux ? Et comment est-ce que le lecteur ne s'y perd pas trop, lui ? Et puis, au niveau de la question du respect du pacte de lecture, un exemple assez concret. Moi, je voulais écrire un roman, enfin même un cycle celte, qui donne vraiment l'impression d'être immergé dans la société celtique. En même temps, je me documente de façon historique. Mes personnages sont Biturige, il y a certains personnages, une haute reine en particulier, qui sont Arverne. Le problème, c'est que la capitale des Biturige, c'est Avaricum, et la capitale, en tout cas dans l'imaginaire du 19e siècle et début du 20e siècle, la capitale des Arvernes, c'est Gergovie. Avaricum et Gergovie, c'est la guerre des Gaules. Je craignais vraiment que pour le lecteur qui connaît César, placer ces deux noms, qui sont des noms corrects historiquement parlant, ne renvoie au 1er siècle avant Jésus-Christ à un imaginaire 3e République un imaginaire Astérix aussi. Il me fallait contourner le problème. Ça a été un vrai problème pour moi. Donc, Avaricum, qui est en plus au centre, hein, parce que les personnages s'y trouvent, je l'ai contourné en lui donnant en fait son sens premier. Avaricum, c'est le gué sur la Vara ou le gué d'Avara. Donc j'ai rebaptisé la ville. Et j'ai eu un coup de chance extraordinaire, c'est qu'il y a des archéologues en ce moment, depuis quelques années, qui sont en train de dégager une ville extrêmement importante à côté de Gergovie. Hein, c'est Coran. Strabon dit que la capitale des Arvernes s'appelle Nemosos. Il est probable que Coran soit Nemosos. Donc, j'utilise le mot Nemosos. Et ainsi, j'espère que pour le lecteur, quand il lit mes romans, il est toujours dans un monde complètement secondaire. Et il ne se trouve pas projeté dans la Gaule du 1er siècle de Jules César.
Oui. Il y a une autre façon de faire, c'est la manière Fellini, et de dire les Romains sont des Martiens, donc je fais ce que je veux. Et donc ça donne le Fellini satiricon. Mais c'est peut-être pas transposable partout, et avec des intentions quand même curieuses.
Alors on continue sur l'utilisation de l'histoire, sur l'appropriation. Quel est le but ? À quoi vous sert l'histoire, cette fois dans un sens de... pas seulement pour construire vos romans, mais... pour le message que vous avez apporté, est-ce que ça sert à tendre un miroir au présent, tout simplement ?
C'est exactement ça, c'est un miroir au présent. Moi, je travaille depuis deux romans, ce serait une trilogie, sur la constitution de l'imaginaire américain. Ce qui est intéressant, c'est une nation relativement jeune qui a renoncé... au passé culturel de l'Europe tout en le reprenant, c'est difficile, et qui surtout a plus constitué une mythologie d'un genre nouveau, qui est une mythologie qui tend plutôt au futur, qui n'est pas ancrée dans le passé. En tout cas, ça c'est sensible depuis le XXe siècle. Mais ce qui me passionnait, c'est que l'imaginaire américain a des sources extrêmement variées qui vont des populations amérindiennes natives, qui, même si on a tout fait pour n'y pas être sensible, par leur force, a quand même touché les arrivants. Et puis des cocktails complètement étranges, comme ma mère Loi, qui semblerait qui ait existé, mais qui n'est pas existant. Il y avait une jeune femme qui s'appelait Elizabeth Goose, qui était la grande amie de Cotton Mather, qui était le chasseur de sorcières. Donc pendant les lois bleues de Boston, tout ce que le puritanisme avait de plus sévère, de plus intransigeant, était en même temps à l'origine des contes de ma mère Loi. Donc ce genre de mélange, l'esprit du maïs et les lois bleues de Boston, moi, m'ont fasciné. Et j'ai trouvé intéressant de créer un imaginaire qui, justement, part d'un passé très lointain et assez indéterminé, puisque à un moment, on commence à le construire. Le passé amérindien, par définition, est une construction occidentale, telle qu'il existe en tout cas massivement. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au cinéma le plus ultra, jusqu'au cinéma porno, etc., pour l'imaginaire américain, ce qui m'intéressait donc, c'est de créer un mouvement qui va, en effet, du passé qui est pris dans le présent, qui tend vers le futur, à partir de sources aussi variées, sacrées et terriblement profanes, de tout type d'imaginaire, et donc de tout type d'histoire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, ne serait-ce que dans l'ambiguïté du mot « histoire » en français, qui n'existe pas dans d'autres langues, mais l'histoire, c'est à la fois l'action humaine dans le temps, c'est le récit qui est forcément ultérieur de l'historien, et puis c'est une histoire, celle que nous, romanciers, tâchons de décrire.
Stéphane Rollet, il y a outre ce que vous nous avez déjà présenté, il y a une autre utilisation, appropriation de l'histoire, bon, plutôt dans la série télévisée, c'est une dimension idéologique qui a pu être interprétée différemment dans Game of Thrones, mais par exemple, il y a eu une célèbre interprétation de Daenerys comme rêve américain de conquérant, libérateur, accueilli dans l'allégresse au Moyen-Orient. Hein, voilà cette blonde qui arrive et qui libère les peuples opprimés et qui est accueillie comme une mère. Bon, c'était avant que ça commence à tourner un peu mal quand Daenerys a été confrontée au gouvernement dans la durée. Qu'est-ce que vous pensez de ce type ? Est-ce que vous pensez que c'est présent, forcément, en arrière-plan, quand on utilise l'histoire, hein, d'avoir comme ça des images, des parallèles avec le présent qui s'établissent ?
C'est quasiment fatal, mais là quand même il y a deux choses. Il y a d'abord les romans, et quand même le premier de ces romans a été sa rédaction commence il y a 25 ans quasiment, et puis et le dernier paru, hein, on sait bien qu'on aimerait bien qu'il y en ait d'autres qui arrivent vite, mais le dernier paru c'est 2011. Quant à la série, elle commence justement en 2011 et puis elle n'est pas encore terminée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait ce qu'écrit George Martin a pu être interprété directement au vu de la série, alors que la série vient juste d'être tournée. Et que la série, par définition, comme ça s'adresse à un grand nombre de personnes, au plus grand nombre de personnes possible, de ce côté-là, c'est une réussite, la série joue bien davantage là-dessus. Y a un cas très, très, très net qui m'amuse beaucoup. Précisément parce qu'on ne le remarque pas très vraiment, mais lorsque George Martin imagine Mélisandre à la tête d'une secte, bon, vous voyez quand même, à l'époque, les Twin Towers sont toujours debout, on n'a pas les attentats que nous connaissons aujourd'hui, on ne peut pas voir ce qu'on y voit éventuellement aujourd'hui. Parce qu'on peut y voir, en revanche, c'est quand même quelque chose d'assez parodique. Mettre une femme splendide à la tête d'une secte religieuse, c'est pas exactement le premier mouvement. Et aujourd'hui, évidemment, ce côté-là, il paraît, je crois, encore plus fort à cause de la série et à cause de notre actualité. L'actualité ne nous montre pas les chefs, disons, de factions extrémistes comme cela. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort. Maintenant, ce que tu disais, malheureusement, je crois que la série est complètement victime de son succès et que si vous suivez un petit peu des éléments du buzz, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de bêtises, et je suis poli, qui s'écrivent et surtout se traduisent en français d'après les sites américains. Généralement, on prend ce qu'ils écrivent de pire et on le fait avec du retard et si possible sans les citer. Donc ça crée en fait un rapport à l'histoire qui est quand même assez particulier, un rapport à l'actualité, enfin à notre histoire, j'entends actuelle, qui est quand même assez particulier. Je crois qu'on en fait très très nettement beaucoup trop et que certes il y a des liens, certes la réalisation de la série essaie d'aller vers ces points communs, mais pourquoi est-ce qu'ils existent ces points communs ? Bah, ils existent sans doute parce que le romancier est un grand romancier de fantasy et que 25 ans plus tard, ce qu'il a écrit peut encore facilement être adapté à notre temps et à ce qui s'y passe. Je crois que là, pour le coup, les romanciers ici aimeraient bien, enfin, je parle à votre place, mais vous me direz si c'est oui ou non, aimeraient bien que dans 25 ans, parce que c'est quand même long, 25 ans aujourd'hui avec la production, on puisse relire leurs œuvres et se dire... En fait, oui, ce qu'ils disent l'un comme l'autre, là, ça nous parle. On voit des choses qui sont toujours en relation avec leurs œuvres.
Et ce type d'interprétation existe massivement pour Tolkien, qui les refusait. Hein, c'est la fameuse...
Mais qui fournit une explication qui rejoint ce que vous évoquiez. C'est pour Tolkien, en fait, le conte, et bon, bien sûr, pour lui, Le Seigneur des Anneaux est un conte, le Silmarillion était un recueil de contes. Le conte, effectivement, n'est pas allégorique. Mais on peut y voir de l'applicabilité. C'est-à-dire que sur le récit peuvent venir se greffer toute une série d'interprétations qui ne relèvent pas nécessairement des intentions de l'auteur originel ou du collectif d'auteurs dans le cadre du mythe, puisque Tolkien réfléchissait sur le mythe. Hein. Le récit est suffisamment adaptable finalement au contexte dans lequel il va se retrouver pour qu'on y trouve des significations. Je pense que ça correspond à ce que vous évoquiez sur Martine. Et c'est le propre effectivement des grands mythes, c'est-à-dire étymologiquement des grands récits, hein, et des grandes œuvres. Hein. Les grands classiques, ce sont ceux sur lesquels on va toujours trouver, dans lesquels on va toujours trouver finalement une relecture qui nous éclaire sur notre monde, bien qu'ils aient été composés par des hommes anciens qui n'avaient pas notre mentalité ni notre culture.
Georges Bischoff, cette utilisation de l'histoire, cette appropriation, vous en êtes familier, c'est un de vos axes de travail. Comment se constituent les imaginaires nationaux ou régionaux? Qu'est-ce qu'on reprend de l'histoire d'une région pour en former une image au fil de l'histoire?
Eh bien, il y a un peu le pillage du magasin d'accessoires et une construction qui est faite alors, à un moment donné et qui peut être reprise comme valeur d'évangile par les générations suivantes. Donc on essaye, finalement, la tendance à transformer l'histoire en catéchisme avec toute une série de vérités qui sont structurées par une chronologie, nos ancêtres gaulois, Marignan 1515, que sais-je encore. Je crois que c'est quelque chose qui est le résultat d'un temps court, mais qui reste opérationnel dans un temps long.
Il faut que vous parliez bien dans le micro, il y a toujours des gens qui disent qu'ils ne...
Pardon ?
Qui vous entendent mal.
Ah,
est-ce qu'il marche le micro ?
Non, je crois que ce qui est important, c'est que des savoirs qui se mettent en place perdurent alors qu'ils ont perdu toute actualité. Je crois que c'est important. Les débats récents sur l'enseignement d'histoire portent généralement sur le fait que les éléments structurants de la chronologie ont été perdus, que les jeunes générations ne savent plus qui étaient jeunes là, que sais-je encore. Hein, c'est de la nostalgie appliquée et ça aboutit à une espèce d'histoire de vitesse qui fait que d'un côté nous avons une histoire dite traditionnelle, fixiste, éternelle, et de l'autre côté l'histoire science humaine qui évolue, qui a d'autres objectifs, qui a d'autres champs d'exploration, et ces deux histoires sont souvent incompatibles.
Alors, autre champ de autre groupe de questions, je n'aurai évidemment pas le temps de tout faire comme d'habitude, un ensemble de questions qui portent sur la vulgarisation. Est-ce que vous avez, les uns comme les autres, et par des moyens très différents, un objectif, une volonté de vulgariser un savoir historique, c'est-à-dire de le faire mieux connaître, de le rendre accessible à d'autres générations, à d'autres publics que celui qui serait habituellement celui le plus directement visé par la connaissance historique.
Est-ce qu'on attend vraiment d'un romancier de faire de la vulgarisation historique?
Bonne question.
Dumas, sûrement pas.
Mais Dumas, c'est par Dumas qu'on connaît qu'on connaît toute une partie c'est lui qui nous permet de connaître l'histoire de ce moment-là. Donc c'est pas son objectif,
mais c'est une histoire.
C'est une histoire.
Ce n'est pas de l'histoire scientifique.
Non, ce n'est pas de l'histoire.
C'est du roman.
Oui.
C'est absolument passionnant. On peut d'ailleurs le réinterpréter. On peut même y réinjecter de la fantaisie. Ça a été fait. Mm. Hein, les adaptations les plus récentes des Trois Mousquetaires. Milady est une sorcière ou une magicienne. Non, je crois que on n'attend pas des historiens qui se mettent à faire du roman. Et on n'attend pas des romanciers qui se mettent à faire de l'histoire. Et en général, les deux font assez mauvais ménage. Moi, ce qui m'intéresse quand je lis un roman, c'est d'une part l'action, mais c'est aussi trouver des comportements qui relèvent de la nature humaine, l'universel, mais pas du tout du détail, pas du tout de l'archéologie. Alors, on arrive à faire ça. Hein, il y a, par exemple, des grands archéologues de la Gaule, Christian Goudineau, qui a écrit quelques romans historiques qui sont remarquables par leur valeur pédagogique, mais dont l'action est totalement ténue et sans grand intérêt.
C'est sûr que ça peut être un problème. Mais vous, dans vos œuvres, il y a certaines œuvres dans votre bibliographie qui relèvent d'un travail de vulgarisation.
Oui, mais c'est la vulgarisation soft.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire que, là encore, je fais de la reconstitution comme en faisait un peintre académique du 19e siècle, c'est-à-dire que je donne une image à peu près vraisemblable d'un passé. C'est ce que j'ai fait avec Jacques Martin. Mmh. J'ai mis en scène des épisodes d'histoire sous forme d'un récit. Je crois que je suis à la limite de mes forces d'historien et à la limite de l'escroquerie. Il faut se méfier du pédagogisme.
tout à fait.
En revanche, je pense que le romancier a de quoi stimuler les historiens, a de quoi opérer une sorte de pastorale vis-à-vis de lecteurs qui, partant du roman, vont passer à l'histoire. Et je reconnais un immense mérite à tous ces auteurs, depuis Tolkien, d'être, comment dirais-je, des médiateurs, et de, à ce titre, beaucoup, particulièrement précieux. Le nombre d'historiens, le nombre d'étudiants qui sont arrivés à l'histoire grâce à la fiction est tout à fait remarquable.
Tout à fait.
En revanche, c'est comme le cholestérol, il en existe du bon et du mauvais, hein, et il existe... alors, un des genres qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est le roman historique médiéval, les polars médiévaux, les polars antiques, etc., on y côtoie le meilleur et très souvent le pire. Si vous voulez lire un exemple de littérature qui m'a tiré des larmes de tristesse,
de joie, non, de désespoir,
et en même temps, des cris de haine, c'est un livre qui a paru il y a une trentaine d'années, que la plupart d'entre vous ont oublié, qui s'appelait La Chambre des Dames,
mais
de
oui.
Jean Bourin. Oui. Mais c'est, à mon avis, ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Non, absolument.
Oui, oui, oui. Alors, non. Ah, on s'écarte.
Eh bien, Georges, nous avons invité Jeanne Bourin qui va rentrer sous vos applaudissements.
Alors, Xavier, Stéphane, qui veut parler de cette question de la vulgarisation historique en fiction. Enfin, jusqu'où, voilà, jusqu'à la fiction ou voilà. Pas.
Pour ce qui me concerne, je suis, j'allais dire, placé dans une de façon moins stratégique ou désagréable que mon collègue, puisque moi j'enseigne plutôt la littérature et l'histoire de l'art, donc de ce côté-là, je suis un peu garanti. Personnellement, c'est très clair. Je pense que, comment dire, tout ce qui est bon pour fabriquer le miel qu'on va mettre autour de la coupe amère du savoir, tout cela est bon. Et c'est tout. Moi, j'en prends une vieille métaphore au poète Lucrèce. Pour attirer les jeunes, et il y en a beaucoup ici, dans le monde dans lequel nous sommes, il est clair que nous devons, nous, profs, il y en a pas mal autour de la table, nous devons imaginer autre chose. Ça ne veut pas dire sombrer dans la facilité et la démagogie, mais il y a tout un ensemble de productions où on voit bien qu'il y a un intérêt très fort de la jeunesse et où on voit bien, nous, parce que ça c'est notre spécialité, qu'il y a une très forte utilisation de la culture. J'étais à un colloque anti-queer pop il y a deux jours, et où on voyait, par exemple, le clip de Katy Perry autour de Cléopâtre, que certains, sans doute, ou certaines connaissent. Bon. On voyait comment l'Antiquité était réutilisée par des productions on ne peut plus modernes. Mais si on attire des gens qui n'y connaissent rien par là, mais moi, j'applaudis dès demain. Si les gens s'intéressent à... Si les jeunes, en particulier, viennent s'intéresser à la guerre des deux roses parce qu'ils sont fanatiques de George Martin et qu'ils trouvent, par le biais de ces romans, quelque chose qui les y amène, mais j'applaudis dès demain aussi. Alors évidemment, après, on peut dire il ne faut pas que tout se confonde. Ça, c'est vrai. Et il est vrai que quand on entend un rappeur que je ne nommerai pas par charité chrétienne, ou pas chrétienne d'ailleurs, pour ce qui me concerne, mais par charité, simplement, dire « Moi, je m'intéresse à Game of Thrones parce que j'aime bien savoir d'où on va et où on arrive et que, voilà, en gros, qu'il prend ça pour de l'histoire et qu'il ne se rend pas compte que les dragons sont peu historiques, disons, par exemple. » Bon, ça, c'est évidemment l'extrême que vous avez bien compris. Mais pour le reste, à la fin, c'est pas tellement grave. On a une culture ancienne, riche, qui visiblement dit beaucoup de choses à beaucoup de monde. On voit sur les sites... que la jeunesse, dont on dit régulièrement qu'elle ne sait plus rien, qu'elle ne fait plus rien, on voit la qualité des analyses qui peuvent être faites, et le goût aussi, pour le travail, tout simplement du travail. Donc, très bien. Moi, encore une fois, je pense que cette vulgarisation par la fiction, mais elle peut être aussi un élément par lequel on a accès à l'histoire la plus scientifique et la plus sérieuse qui soit.
Alors, on va laisser répondre les romanciers pour terminer, qui, l'un comme l'autre, vous éclairez des périodes précisément mal connu, notamment, enfin, je pense à la trilogie celtique, enfin, la quête, désormais tétralogie celtique. et oui, une période
des épisodes méconnus de l'histoire américaine, notamment. Donc, est-ce qu'il y a aussi un objectif de faire mieux connaître en ces périodes-là ?
Non, du tout.
Bon, quelle déception.
Non, vraiment.
Pourtant,
non.
C'est l'effet, hein.
Oui. Si en effet secondaire, tant mieux. Par exemple, quand j'écris Rosée de feu, je suis content d'avoir montré un aspect des kamikazes qui est beaucoup plus nuancé et plus réaliste que ce qu'on croit. Mmh. Oui, ça, j'en suis bien sûr ravi. Mais lors de la création de l'intrigue, de la narration, non, ça c'est. Il ne faut même pas que ça y soit, surtout pas.
Oui, justement, pour éviter ce pédagogisme voilà. dont on parlait.
C'est pour ça qu'il y a une. Ce qui compte, c'est une histoire, et si l'histoire transparaît après, tant mieux, bien sûr, mais ce n'est pas l'histoire qui dicterait une histoire.
D'accord, donc on revient à la distinction de départ.
En ce qui me concerne, moi, je me méfie du didactisme, du pédagogisme, surtout parce que, effectivement, en abordant des volets de l'histoire assez peu connus, on peut être, et puis en plaçant le lecteur en immersion dans ce monde-là, on peut être tenté d'apporter des explications. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en fait, là, on ruine la fiction. Hein, à partir du moment où on se met en position de professeur, on n'est plus en position de narrateur, encore moins de personnage. Toute la recherche historique, elle est là pour favoriser l'évasion. Pour moi, l'objectif premier du roman, c'est favoriser l'évasion du lecteur. Ce qui est paradoxal, en fait, c'est que la demande de pédagogisme, elle vient souvent du public. Moi je sais qu'on me demande assez régulièrement du lexique, hein, le lexique employé. Alors, c'est vrai que dans une position un peu anti-pédagogiste, j'utilise des mots rares que je balance au fil de la narration et je laisse le lecteur se débrouiller avec. Parce que mon but premier, c'est pas qu'il comprenne, c'est qu'il soit dans le monde. Et on comprend pas tout à l'intérieur de l'univers. Et c'est tant mieux, si on comprend pas tout, c'est parce que le monde est complexe. Alors bien sûr, c'est un procédé qui est complètement artificiel de ma part, hein, mais c'est délibéré. Donc j'ai la demande du lexique. On en reparlera régulièrement, la demande des cartes. Pour avoir une vision en surplomb, bien scolaire, de l'univers qui correspond absolument pas à la vision que les personnages auront de l'univers. Et je m'efforce autant que faire se peut d'éviter justement tout ce pédagogisme.
Eh ben merci de votre attention à vous et puis merci à tous les intervenants pour la qualité de ce débat.